pardon. Vas-y, vas-y.
Bonjour aux auditeurs et auditrices de
Radio Transparence.
Radio Transparence, c'est tellement transparent que voilà. Radio Transparence.
Et Oxygène FM.
Ah bah oui, oulala, mais ça respire là chez vous, hein. C'est voilà. Bien. C'est chouette.
C'est parfait. Donc on démarre cette interview avec Michel dans son petit qu'est-ce qu'on dit pied à terre,
très chic,
c'est très chic, hein, ça fait oui. à Lyon. On n'est pas à Saint-Julien-Molamolette où il y a une autre résidence et on va parler aujourd'hui donc du dernier album qui est sorti en 2023. Il y a deux événements que la terre entière a salué en 2023, même trois événements, oui. La sortie de ton album Miette, la sortie du livre La Somme, quand vous me rendrez visite, oui. Et l'inauguration de la salle Michel Bernard où on aurait pu se retrouver à Saint-Julien-Molette.
Voilà, voilà. Si le temps l'avait permis.
Oui.
Ouais. Et ben oui, il y a eu quelques événements comme ça. Alors, tu me fais l'honneur de dire que c'est des événements mondiaux, mais si on reste un peu plus simple, à mon petit niveau, c'est vrai que ça a été une marque importante, on va dire, d'activité et puis une forme de reconnaissance, on va dire, de mon travail au fil des années.
Tout à fait. Sachant que tu avais sorti juste avant une sorte de compilation, l'intégrale, mais qui n'était pas intégrale en fait, puisqu'il y avait encore d'autres morceaux à passer. 14 CD qui étaient regroupés de ta vie, ton œuvre, plutôt ton œuvre, qui était passée.
Oui. Et, voilà. Le problème des intégrales, c'est que soit tout de suite derrière, vous cassez votre pipe et là, c'est vraiment intégral, soit si vous continuez encore un petit peu, évidemment qu'il y a des choses qui échappent à l'intégrale, quoi.
Et même en regardant le livre, en lisant attentivement le livre, il y a beaucoup de choses que tu as chantées, que tu as co-interprétées et autres, qui ne figurent pas dans les disques, qui n'ont pas été captées, parce que c'est des moments présents et ce n'est pas forcément des moments à revivre par l'audio.
Oui, tout à fait. Comment dire, c'est bien d'avoir des traces, mais vouloir toutes les traces, il y a un moment où ça devient... Moi-même, Enfin, quand il m'a été proposé de faire ce bouquin-là par Laurent Carmé et Cécile Prévost-Thomas, parce que c'est toute leur faute, en fait, moi, je n'étais pas du tout là-dedans, je n'étais jamais retournée, moi, dans
les archives.
Oui, j'avais jamais... Donc, au fil des années, les choses s'étaient entassées à Saint-Julien-Molamolette, dans le plus grand désordre, et il a fallu reconstituer tout ça, et c'est là que je me suis aperçue que j'avais fait un nombre de choses... faramineux, quoi, qui m'a étonné moi-même, mais après, pour tout reconstituer, c'est juste impossible, voilà.
Mais c'est vraiment ce livre, c'est vraiment une somme, enfin moi je le recommande chaleureusement aux gens qui te connaissent et aux gens qui ne te connaissent pas, puisqu'il y a à la fois une partie un peu intime, mais c'est pas l'essentiel, c'est surtout ton travail artistique, ouais. Et les gens que tu as rencontrés, que tu as croisés, les énergies que tu as permis de capitaliser, si je peux employer ce terme-là, de rassembler sur scène ou ailleurs, auprès des enfants, enfin ouais. C'est multiple, il y a multiples choses, il y a du théâtre, il y a des chansons, il y a des spectacles, j'ai pas vu de radio et j'ai pas vu de cinéma.
Ah, faire de la radio, ça serait quoi? Ça serait...
Vers une émission de radio, comme le fait Juliette, à un moment donné, Radio France, pour partager.
Non, moi, je n'ai pas la tchatche de Juliette et tout. Non, mais c'est vrai, c'est un... Il faut savoir faire ces choses-là. Hein. Moi, d'abord, on ne l'a jamais proposé, et puis ça ne m'est jamais venu à l'idée.
Et le cinéma, pas de musique de...
J'ai fait une musique une fois pour un film qui, malheureusement, n'est jamais sorti. Ce qui n'empêche pas que c'était un truc très bien, un monsieur qui s'appelle Claude Weiss. Et c'était un film à propos de Guillaume Apollinaire. On était allé enregistrer, je me rappelle, c'est les années 81. On avait enregistré, j'avais fait une musique, on était allé enregistrer à Prague avec un orchestre. Voilà, c'était très impressionnant pour moi. Et manque de bol, voilà que le film ne sort pas.
On doit trouver des archives, ça doit pouvoir se trouver ça.
Ah oui, parce que je pense que le film existe, il n'a pas trouvé de sortie commerciale, mais je pense que le film doit exister en DVD, oui.
Et après, tu as fait également la musique pour une pièce de théâtre.
Oui. Pour plein de pièces de théâtre.
Pas forcément la musique, mais l'accompagnement musical. Ou...
Oui, c'est vrai. Comme je viens du théâtre, enfin, mes premiers pas dans le... monde du spectacle, ça a été plutôt par le biais du théâtre. Du coup, j'ai gardé des relations et puis aussi un attrait pour la vie théâtrale, la vie de troupe, tout ça, c'est vrai.
Ici à Lyon, tu es bien servi parce qu'il y a vraiment une offre culturelle très importante. Alors on revient à l'album Miette. Donc j'ai proposé en entrée d'écouter Communarde. C'est le choix que j'ai fait. Je t'ai pas demandé ce que tu préférais comme titre de cet album. Je pense que tu les aimes tous forcément. Mais celui que tu as envie que les par lequel tu souhaitais que les gens découvrent cet album. Moi j'ai choisi Communarde. Bon, pour plein de raisons. Bon, d'abord la musique Frédéric Bobin. Donc ça, il y a un compagnonnage de quelques années maintenant avec Frédéric Bobin. Ouais. Et bien sûr, le choix du thème Communarde, on est à l'approche du 8 mars. Et puis, c'est un thème qui vraiment traverse toute ton œuvre, cet engagement militant. Alors, je ne sais pas si tu dis féministe, toi, ou en tout cas pour le droit des femmes.
Oui, mais pourquoi pas, oui, bien sûr, ça me dérange pas.
Alors, ce choix de titre.
Bravo, très bien, comme ça, puis c'est péchu, c'est très bien, ça met dans l'ambiance.
Voilà, et puis la commune pour toi c'est vraiment une référence importante aussi, puisque tu as fait plusieurs spectacles, mais en particulier un autour de Louise Michel.
Oui, consacré à Louise Michel, à son œuvre, je me suis vraiment penchée sur le personnage, j'ai lu tout ce qu'elle avait écrit, et Dieu sait qu'elle a écrit, je suis retournée sur tous les lieux où elle avait vécu, sauf la Nouvelle-Calédonie, mais où elle avait vécu, où elle était morte. C'est une balade à travers une recherche de ce personnage plutôt, à travers des choses qu'elle a écrites, puis des choses que j'avais écrites moi en réponse, quoi.
Oui, puis autre point commun, Louise Michel, Michel Bernard.
Bah oui,
voilà,
c'est les
deux prénoms. Voilà. Et le 8 mars aussi, parce que moi j'avais, il y a quelques années, interviewé Anne Sylvestre. J'avais eu la chance de l'interviewer. C'était pas forcément le meilleur souvenir d'interview que j'avais eu. Parce qu'elle
était, je te comprends.
Elle avait la dent dure. Et en particulier, on avait parlé du 8 mars, parce qu'elle était venue à Pamiers pour le 8 mars. Et elle avait dit, moi, de toute façon, si je ne chante pas, si je ne joue pas le 8 mars, je pense qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et j'ai vu que tu jouais le 8 mars.
Ah bah oui, tout à fait. Ah ben c'est vrai que s'il y a une date où on doit avoir du boulot quand même, c'est celle-ci, enfin pour les chanteuses en tout cas. Voilà, puis bon, cette chanson, oui, effectivement, qui met en lien un événement historique, social, très important à mes yeux, quoi, symbolique. Et puis justement la cause féministe, parce que j'avais remarqué que dans l'œuvre de Louise Michel, dans ses mémoires, comment elle racontait ce moment-là et comment ça s'est terminé affreusement et terriblement, et elle égrène comme ça les prénoms de ses compagnes de lutte, quoi, et elle les égrène avec beaucoup de douceur, alors que c'était quand même une acharnée de la, voilà, elle a tiré au pistolet, enfin évidemment que cette époque était violente, et le décalage entre ces prénoms très doux et puis la beauté de la lutte, tout ça, ça m'a...
Donc les prénoms sont les prénoms de l'époque.
Ah,
parce que
oui,
j'ai eu un doute
sur
Angela, je lui dis, est-ce que c'était vraiment prénom de l'époque,
voilà, d'accord. Okay. Ah oui, je n'allais pas... Attention.
Je n'allais pas déformé, actualisé.
Oui, non, c'était tout à fait des trucs pris dans son bouquin, quoi.
Et je te propose d'enchaîner, on reste dans la même tonalité, avec un deuxième titre extrait de l'album, Les filles des massues.
Ah, oui. Ça, c'est un souvenir plus personnel, évidemment,
ouais,
puisque j'ai...
Mais c'est aussi une forme d'hommage à des femmes.
Tout à fait. C'est les femmes qui m'ont accompagnée, moi et plein d'autres, dans un hôpital, donc de Lyonnais.
Pas très loin d'ici.
Ouais. Pas très loin de... Oui. Et où je me retrouvais suite à un accident de voiture et que j'étais en incapacité totale de mouvement, dans un état de dépendance totale, et j'ai pu mesurer ce que voulait dire la chaleur humaine, le soin, auprès de ces personnes-là, plus qu'auprès des médecins, mais vraiment celles qui ont la main dans le cambouis, si j'ose dire. Et j'ai mesuré la force et l'importance de ces tâches-là, quoi.
Alors, je t'ai dit, le principe, c'est qu'on va écouter des chansons. On vient d'écouter deux chansons du dernier album, et moi, je fais des liens avec des chansons un peu plus anciennes. Et dans cette tonalité-là, j'aurais pu en trouver plusieurs, mais j'ai trouvé que Fille d'ouvrier, qui n'est pas une chanson de toi, bien sûr,
oui,
qui est une chanson de Jules Jouy et
oui,
Gustave Goublier, j'ai pris des notes,
bravo,
était aussi quand même aussi. Alors, ce n'est pas une forme d'hommage, mais c'est aussi rendre compte de la condition féminine, alors, à une époque, mais qui quand même n'est pas...
Voilà, c'est une chanson magnifiquement écrite et qui raconte un parcours de vie d'une femme du peuple, quoi, qui subit toutes les noirceurs de la société, quoi, à la fois dans le travail, le droit de cuissage des patrons, La prostitution, la drogue, les mauvais traitements à la fin de la vie, parce qu'évidemment, on n'a pas les moyens d'être dans un endroit vivable. Et ça raconte tout ça avec beaucoup de réalisme et beaucoup d'âpreté, mais chapeau à l'écriture, là.
Ouais. Et je te disais qu'il y a un ouvrage qui recense des chansons à chanter en chorale et haute qui s'appelle Tue-tête. Hein. C'est un ouvrage que j'aurai l'occasion de t'offrir ultérieurement, qui est édité à Toulouse, édition auto-édition, et dans lequel figure, entre autres, en référence à ce que tu as chanté, cette version de Fille d'ouvrier.
Ah, d'accord. Ah,
voilà.
Super.
On change totalement de registre, on va du côté plutôt de la nostalgie. Et moi, j'ai trouvé une chanson parmi les chansons de cet album que j'aime beaucoup, c'est Nuit de neige. Donc on l'écoute. Et donc, cette chanson Nuit de neige, bien sûr, sur la page blanche, avec la métaphore de la neige, la difficulté d'écriture, donc c'est vraiment magnifique. Et pourtant, tu fais 19 chansons sur ce dernier CD.
Eh bien oui, mais il se trouve quand même que j'ai traversé une période suite à ces honneurs qui m'ont été faits d'un bouquin, d'une intégrale. C'est vrai que moi, ça m'a pesé sur les épaules. C'est-à-dire, je regardais tous ces disques posés sur ma cheminée et je me disais, maintenant, stop ou encore, quoi. Après, il y a le phénomène aussi du vieillissement, du fait d'être sur les routes depuis tant d'années et tout ça, et... il y a un moment où on se dit, mais attends, peut-être falloir se calmer, tout ça. Et puis, assez vite, j'ai pas supporté vraiment cette idée, mais c'était pas très facile de revenir à l'écriture. Et la chanson Nuit de neige rend compte de ça, quoi. Rend compte de cette difficulté, et puis à la fois de ce désir quand même implacable de création.
Et le fait de se mettre en mouvement, hein, de marcher, qui est une façon aussi d'aller chercher l'inspiration qui remonte. Hein. Souvent, beaucoup de gens aujourd'hui sont assis dans leur fauteuil, sont assis dans le métro, sont assis, etc. Et le fait de marcher, c'est une source d'inspiration permanente.
Bien sûr, et puis y a plein de chanteurs qui le racontent, qu'ils écrivent tout en marchant, c'est sûr.
Et même beaucoup d'entre eux se souviennent même du moment où la chanson est née, du moment où ils ont commencé à mettre quelques mots.
Et à quel endroit de la marche et tout.
À quel endroit et à quel lieu, où c'était. La chanson fait remémorer tout ça. Ouais. Et tu disais, la difficulté de se remettre en marche. J'ai entendu dans une interview, j'ai écouté un petit peu, que tu avais une petite phrase le matin qui te mettait en train autour du jour qui se lève. C'est vrai ou
le jour se lève, il faut tenter de vivre.
Ouais.
C'est une citation, je ne sais pas bien de qui c'est.
Alors, je vais te dire, j'ai cherché.
Alors,
j'ai trouvé, moi, c'est le cimetière marin
de Paul Valéry.
C'est « Le vent se lève, il faut tenter de vivre, l'air immense ouvre et referme mon livre, la vague en poudre ose jaillir des rocs, envolez-vous, page tout éblouie, rompez vague, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où picoraient des phoques ».
Là,
tu vois, tu cites tous les matins au petit.
Ah, j'ai pas mémorisé tout ça, mais voilà.
J'ai regardé Paul Valéry, tu ne l'as pas repris. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poèmes, de poètes que tu as repris.
Non. Mais Paul Valéry, je crois pas. Pour la chanson, c'est un style un peu abscon, on va dire. Et puis, effectivement, avec beaucoup, beaucoup de couplets, et voilà. Quand ce sont des couplets. Donc, non, c'est vrai que ça ne fait pas partie. Mais cette petite phrase, oui, quand même.
Le jour se lève.
Il faut tenter de vivre.
C'est beau.
Ouais.
Et tu as chanté aussi La retraite d'Alain Leprest et Romain Didier. Moi, je cite régulièrement quand je croise des artistes qui continuent à chanter parce que c'est vraiment l'âme. Ouais. C'est la chanson d'Anne Sylvestre et Gauvin Serre. Il n'y a pas de retraite pour les artistes. Tu connais cette chanson-là?
Non, je
te la ferai écouter aussi.
Je la fais écouter régulièrement, surtout
avec Anne. Anne Sylvestre, c'est parmi ses derniers titres qu'elle a fait avec Gauvin.
D'accord.
Et en fait, c'est... quand on chante, c'est pas un travail, c'est aussi un plaisir, un partage, des rencontres.
Oui,
c'est
une manière d'être. C'est une manière. Et si beaucoup de chanteurs, surtout ceux qui écrivent, si on leur enlève ça, je veux dire, ils perdent un peu leur colonne vertébrale, quoi. Mm-hmm. Et c'est une lutte. Anne Sylvestre a fait aussi une belle chanson qui s'appelle L'habitant du château. sais pas si ça te dit quelque chose.
Non, j'ai réécouté, ouais. L'habitant du château.
L'habitant du château. Et en fait, c'est la description du vieillissement d'un homme, mais à travers l'image d'un château qui se déglingue, mais qui a toujours dans le grenier une lueur qui demeure, quoi. J'ai trouvé ça magnifique.
Ok. Ouais. Bon, on ira écouter ça. Et dans le même registre, dans l'album, le titre éponyme, Miette, qui raconte aussi cette nostalgie où tu expliques que tu ramasses les miettes de ta vie. Enfin, il y a une image avec le pain qu'on donne aux poules. Enfin, il y a tout ce...
Oui, parce que c'est une chanson qui m'est venue, en fait, pour moi, les souvenirs d'enfance, comme pour beaucoup de gens, ils sont fondateurs. Il y a quelques images comme ça de ma vie d'enfant qui me restent et qui m'habitent, quoi. Et cette histoire de miettes, voilà, ramassées sur la table dans la main d'un paysan qui la jette aux poules, ça m'est resté. Puis c'est, ça avait une belle valeur symbolique, c'est-à-dire comment, avec les miettes de sa vie, on continue à créer.
Et pour terminer sur cette vague-là, puis on va passer à un autre registre, l'homme qui fait les 100 pas aussi. Alors moi j'ai pensé, quand tu évoques l'homme au bouquet, alors, je voudrais m'endormir au creux d'une barque, au milieu de l'eau, écouter le bois de mon cœur qui craque contre les roseaux, tirer le radeau, joli matelot. Moi j'ai pensé immédiatement à la chanson que j'aime beaucoup, Les Petits Cailloux, où il y a aussi cette image de la barque dans l'Endurance. Enfin, les deux images, à mon avis, se reflètent.
Peut-être. Alors là, tu vois, c'est un lien que je n'avais pas fait moi-même, mais... C'est bien que tu l'aies fait. Ben, c'est-à-dire, toutes les images ou les métaphores aquatiques, quoi, qui sont évidemment des sources de rêves et d'imaginaire. Oui, c'est vrai. Le sommeil comme une grande rentrée dans l'eau aussi.
Voilà. Hein, ouais. Et la barque, on dort, on entend le voisin du dessus dans les pierres. Enfin, on va écouter les deux chansons, les deux chansons en miroir. Mais ouais. En n'oubliant pas qu'à la fin, ça se termine par une petite révolte dans les petits cailloux. C'est pas que calme. Il y a aussi, on jette des petits cailloux. Enfin voilà, il y a
des pavés. On jette.
On jette des pavés. Peut-être à l'époque.
Encore. Oui, ça se faisait pas mal à l'époque. oui. Bah, c'est chouette de faire des liens d'images comme ça.
Voilà.
Parce que pour le coup, ça c'est des choses qui nous échappe à nous-mêmes, hein, donc c'est chouette.
Et donc dans le registre des chansons un peu plus de combat, de lutte, Je veux pas de puce. Alors ça tu l'avais déjà, c'est un domaine que tu avais un peu exploré, on va les écouter juste à côté, oui. Avec Je clique par exemple, oui. Où il y avait ce refus de se voir imposer des outils qui privent de liberté. Enfin, peut-être que tu peux l'expliquer encore mieux. Je veux pas de puce.
Oh, bah, c'est juste une réaction contre la déshumanisation du monde et puis sa dématérialisation. Tu vois, maintenant, on n'écoute plus. Il n'y a plus de support concret pour écouter de la musique. Y a plus, voilà. Et puis maintenant, même dans les magasins, on commence à nous refuser de payer en liquide.
Ouais.
Et moi, ça, j'avoue que ça m'effraie. Oui. Ouais. C'est-à-dire que le processus de robotisation des humains, oui, ça me fait très peur. Bon, je me dis, je n'en souffrirai, vu mon grand âge, je n'en souffrirai, enfin, j'ai la possibilité de me tenir un peu à côté de ça, voilà, le nouveau monde qui advient, sauf si la fin du monde...
on va en parler.
Voilà. Le nouveau monde qui advient, c'est vrai, je m'y sens mal, et puis c'est pas ça que je souhaite pour les humains. Mais alors, l'impuissance dans laquelle je me trouve est insondable. Mais au moins, avoir des petites réactions d'humeur, ça fait du bien, quoi. Ouais,
puis de le porter... Alors moi, j'ai fait la référence, j'ai été chercher un petit peu, j'ai trouvé Yvette, la chanson Yvette, oui. Qui raconte une vieille dame, je pense, qui, ouais. Qui est complètement enfermée chez elle et qui ne voit plus le facteur, qui ne voit plus l'agent d'EDF.
Voilà, oui, il n'y a plus de présence humaine.
Même le médecin, en téléconsultation.
Ça, mais on voit bien que petit à petit, la vie est grignotée par ce monde... numérique, qui est évident, c'est pas pour dire que c'est pas bien le monde numérique, mais Sauf que ça finit par bouffer là, ce qui fait notre humanité. Quoi.
Une forme de solitude moderne.
C'est ça.
La dame qui met des vieux pains sur son balcon, comme disait Goldman, d'autres références. Alors, j'ai dit, bon, la puce, je vais quand même faire un pas de côté. Et tu as déjà chanté quelque chose autour de la puce, mais une chanson plus coquine, dans un registre plus coquin, de Colette Renard. c'est pas vraiment le cœur de ton répertoire, mais c'était... Alors, c'est l'histoire de cette chanson, la puce, d'où vient-elle?
Alors, je me souviens plus de l'auteur.
Alors l'auteur c'est Charles-Alexis Piron, André-Joseph Exaudet, c'est ce que j'ai trouvé sur les sites et autres, mais je ne sais pas si c'est ça. Et après il y a Raoul Breton, Michel Legrand et Colette Renard, donc je ne sais pas si c'était...
Raoul Breton c'était l'éditeur,
Michel Legrand
il a dû réorchestrer tout ça, enfin voilà, et Colette Renard a dû le chanter,
voilà.
C'est aussi bête que ça.
Et toi, comment t'es arrivé à ce titre-là? C'était une proposition?
En fait, c'était parce que j'ai participé à une vaste anthologie de la chanson traditionnelle initiée par la maison de disques EPM.
Ouais.
À l'époque, c'était orchestré par Marc Robin. Je ne sais pas si ça te dit
quelque chose. Oui, bien sûr. Ouais.
Et donc, il m'a proposé comme ça dans différents... Il y a un ensemble de CD, il m'a proposé pas mal de chansons. Donc, c'est... Pas moi, honnêtement, qui ai fait le choix des chansons, c'est lui.
Oui, enfin, bien sûr, je comprends.
Je disais oui, je disais non, mais voilà. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à chanter cette histoire de plus.
Alors, tu as fait un deuxième écart, si je peux me permettre, c'est pas forcément un écart, avec La folle complainte de Charles Trenet, ou une histoire d'une bonne qui se donne
mais
du plaisir.
C'est vrai, tu te rends compte.
Ouais. Voilà, donc c'est les deux que j'ai trouvés, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je pense que c'est pas ton registre.
Non, maintenant, tu es assez soft quand même, de ce point de vue-là.
Et donc, dans le registre un peu contestataire, il y a cette chanson Amish. Alors là, je pense que tu t'es fait un petit peu plaisir, parce que là, il y a à la fois la dénonciation et il y a le passage à l'action. On va couper des câbles sous-marins.
Ah oui, parce que c'est un de mes rêves. En fait, c'est vrai.
Alors, explique peut-être.
Non, mais j'ai appris que tout ce système numérique pour passer d'un continent à l'autre utilisait des tuyaux qui passent sous l'océan. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la révolte moderne? Avant, on faisait sauter les trains, hein, sur les rails, on faisait sauter les rails. Maintenant, ça, c'est pas... oui, ça serait de couper les...
Si ça arrive, on viendra te chercher comme co-autrice de cet acte révolutionnaire, couper des câbles ou alors monter sur les montagnes, voir la terre brûler. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Là, tu en parlais tout à l'heure, cette partie environnementale, le monde qui va aussi de ce côté-là à sa perte.
Le monde qui est en train de s'autodétruire, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant. Puis... cette histoire d'Amish, c'est parti évidemment de notre cher président.
Notre cher président, comme on dit, quand on ne veut pas
président.
Le nommer.
Comment peut-il, de manière aussi bête, dire les gens qui...
Voilà, pas la 5G à l'époque, je crois que c'était ça.
Oui, c'est ça, à propos de la 5G. Comment peut-il dire, cet argument bêta qui dit « Ah oui, alors vous voulez retourner à la bougie, etc. Vous n'avez rien compris, etc. » C'est inaudible, quoi. C'est inaudible.
Et en même temps, il y a une contradiction, je trouve, vraiment très forte dans cette chanson, c'est que tu dénonces tout ça et tu fais du placement de marque. Tu places Bricorama. je pense même que tu as des actions.
En fait.
Tu as des actions aussi chez Interflora, parce que je me souviens que dans Je t'aime,
c'est
tu parlais
vrai,
d'Interflora.
Vrai,
donc
ouais,
voilà,
tu
donc...
vois que je suis complètement contaminée. Mais oui, on ne peut pas échapper. Mais je me suis posé la question, pas pour Interflora, mais pour Bricorama. Est-ce que je gardais le nom
Je sais pas, ça existe vraiment, Bricorama, je
sais
pas.
Oui.
Bon, ben voilà, tu leur demanderas peut-être une perceuse ou
pour... Oui, parce que finalement, je les subventionne. Là,
tu fais la promotion. Alors, je vais voir en fonction de la construction de l'émission, peut-être que j'irai passer aussi dans le même registre, l'usine à chagrin, qui me semble être dans la même tonalité, ou même une chanson que j'aime beaucoup, moi, pour l'auteur auquel tu fais référence, tu te rappelles Les Petites Boîtes, qui dénonce justement l'uniformisation du monde, bon, en faisant référence à Grémolois, la chanson qu'il n'a pas écrite, il a juste traduite.
C'est une chanson traditionnelle.
Victor Jara, je crois, au départ, ou une chanson anglaise, ou américaine.
Américaine, ou néo-zélandaise.
Little Boxes, voilà.
Oui, c'est ça.
Et toi, tu l'as mise en exergue avec Tu te rappelles Les Petites Boîtes.
Parce que les Petites Boîtes très étroite que chantait Grayman Wright, c'est vrai que c'était un refrain qu'on chantait dans les années 70 et qui parlait déjà de ça, c'est les vies bien rangées dans les boîtes, le mode de vie américain, les petits pavillons, tout ça. Et voilà, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait nous autres, vieux briscards, qui avons fait 68, qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher ce monde qui s'uniformise?
On continue à agir à notre façon, toi dans ton registre, moi dans d'autres registres, peut-être parfois ensemble dans les rues, dans les manifestations.
Oui, mais justement, ça me fait plaisir de dire, parce que les boomers, tout ça, on leur marche sur la gueule un peu, on dit... Oui, ils sont tous embourgeoisés, maintenant c'est des bobos, c'est eux qui tiennent toutes les rênes du pouvoir actuellement. Ne pas oublier qu'il y en a d'autres qui sont restés fidèles à leur
conviction,
et qui, à leur niveau, essayent d'exprimer des choses. Quoi.
Et parmi ces convictions, il y a celle sur l'émigration que tu as repris de multiples fois. Et dans ce titre, dans cet album, il y a un titre particulièrement touchant, c'est le « Où irez-vous ?», qu'on pourrait rapprocher de « Où va ton papa ?», de La Tordue ou de plein d'autres titres, etc. Mais celui-là, il est particulièrement fort. On l'écoute. Et voilà, peut-être quelques mots sur ce titre avec le maire de Riace, expliqué.
Oui, j'avais lu dans le journal que donc ce maire de Riace, qui est une petite ville italienne, un village, se retrouvait en prison alors qu'il avait eu toute une action d'accueil des migrants et une action intéressante puisqu'elle consistait à créer de l'activité, enfin faire revivre le village à travers l'artisanat. Enfin, il y avait des propositions autres que le simple accueil dans des foyers, mais faire revivre le village. Et ça n'a pas plu à tout le monde, et on s'est débrouillé pour le mettre en prison. J'ai appris que depuis, il avait été libéré, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'argument contre lui. Mais ça m'avait particulièrement marqué, parce que pour moi, son emprisonnement était comme une espèce de déshonneur qui nous touchait tous. Et c'est pour ça que j'ai dit « Où irez-vous ? » Je parle aux migrants. Et nous, où allons-nous ? Nous autres occidentaux européens qui essayons à tout prix de préserver notre précaré de confort. Jusqu'où ça va, puisqu'on sait que de toute façon, les migrations, elles vont être de plus en plus importantes. Donc, comment on prend cette problématique à bras-le-corps plutôt que de laisser mourir des gens au fond de la Méditerranée, quoi.
Et ça fait écho à Nomade, ça fait écho à C'est un Rital. Alors j'ai repris les paroles de C'est un Rital, il y a une petite phrase, c'est Manoukian sur l'affiche rouge. Donc dans l'actualité hier, Manoukian est entré au Panthéon, c'est un coup politique, clairement, mais peu importe.
Ça fait bizarre, mais quand même symboliquement, j'ai regardé à la télévision.
Ah oui, j'ai pas regardé, ouais.
Et ça fait quelque chose quand même. Ça m'a... Oh, la tête de Manoukian qui projetait sur le Panthéon, c'est fort. Cette idée, c'est un Rital, c'est une chanson qui exprime à quel point la France, elle est faite aussi de tous les étrangers qui ont agi. Quoi.
Tu l'avais dédiée à Francis Lemarque, je crois.
Oui.
Tu évoques ces étrangers qui ont fait des choses. Il me semble que tu l'avais dédié à Francis Lemarque.
Un petit juif échappé du ghetto. Ouais.
C'est ça. On peut retrouver les paroles.
Oui.
C'est ça.
Ouais. Il se trouve que justement, en enregistrant cette anthologie, là, j'ai eu une rencontre avec Francis Lemarque. Puis on a partagé une chanson aussi dans un film. Un film sur le groupe Octobre.
D'accord. Avec Prévert.
Jacques Prévert.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et du coup, j'ai rencontré Francis Lemarque et j'adore l'œuvre de cet homme, quoi, qui est bien maintenant très méconnu, mais...
Mais on connaît à Paris, on connaît des chansons comme qui ont été vraiment...
Il a fait quelques tubes, mais qui est chanté par Yves Montand et tout ça. Mais bon, disons que maintenant, ces chansons ne circulent plus trop. Il y a Quentin Soldat aussi.
Oui, Quentin Soldat, oui.
Qui circule encore. Et je trouve que c'est un magnifique auteur de chansons. Et puis ce qui symbolise, c'est-à-dire, il parle justement de son quartier à Paris, où il y avait des rabbins, où il y avait des curés, où il y avait
des imams.
Des imams. Et en fait, il dit dans la chanson, je ne sais plus comment elle s'appelle cette chanson, mais il dit quand l'imam avait un empêchement, c'était le curé qui venait dire.
Ah, je chercherai.
Voilà, c'est un autre moment de l'histoire où les religions cohabitaient pacifiquement, quoi.
Et cette Arital, elle a été reprise par, je ne connais pas moi, Martin Scorsese,
Oui.
hein, qui l'a repris en 2014 et qui vient de sortir un nouvel album en 2023,
Ouais,
de
ouais.
passage, avec à l'écriture des mélodies, un certain Frédéric Bobin, dont
Ah
on a
bah c'est
peut-être
dingue
parlé.
ça.
Il est partout.
Oui, c'est une fille de, c'est une chanteuse du sud de la France qui a bien du talent et qui s'est mise à l'écriture elle aussi quoi.
D'accord. Bon, après, on va avancer parce que sinon, il va y passer des heures, hein, sur ton œuvre. Mais j'avais fait référence à Madame Tu aussi, Alors c'est fini, dans les chansons dans lesquelles tu parles aussi des étrangers, des personnes qui sont là. Bon, on ira écouter ça plus tard.
Oui.
Alors, on va changer de registre à nouveau. On va aller du côté des personnages que tu as rencontrés, des personnages extraordinaires. Et dans ce dernier album, Miette, il y a un titre magnifique, tu ne nommes pas la personne, Cette vibration dans l'air. J'aime beaucoup cette chanson aussi.
Alors, il y a une personne derrière ça pour toi.
Mais j'imagine.
Précise.
Mais peu importe, peu importe.
Peu importe,
peu importe,
exactement.
On est d'accord. Hein.
Oui,
moi, je
parce
pensais,
qu'on est, on est dans l'ordre du vibratoire.
Du
donc,
vibratoire, les passantes de Brassens, enfin, de Antoine
si tu
Paul,
veux,
enfin voilà.
Oui. Alors là, ça m'est venu, effectivement, moi, le ressort de l'écriture de cette chanson. C'est le moment qu'on vit en fait en spectacle avec le public. C'est-à-dire, je pense que le chanteur, il chante, il est traversé par une énergie qu'il offre au public, et le public, traversé dans le meilleur des cas, par une émotion, dans l'émotion de son écoute, et qui te renvoie aussi cette vibration. Et bah, y a certains moments bénis où on se sent un peu tous soulevés de terre un peu, hein, de vivre un moment qui nous échappe à nous-mêmes, quoi. Et c'était ça pour moi, cette vibration dans l'air. Après, c'est une chanson qui peut s'entendre évidemment dans une relation amoureuse ou effectivement une rencontre. Mais voilà, c'est ça, parce que ça c'est la... C'est la magie des choses artistiques, c'est la magie aussi de la vibration d'une voix.
D'un regard.
Oui, tout à fait.
Tout ce que tu évoques.
C'est des choses un petit peu impalpables, quoi. Et bon, c'est difficile de parler de ces choses-là, hein, franchement.
Non, mais tu en parles, la chanson se suffit à elle-même. Moi, c'est juste pour prolonger le plaisir. Voilà, il n'y a pas forcément d'explication en chanson.
Non,
heureusement,
non.
Heureusement.
Gardons le flou.
Gardons le flou. Alors, par contre, sur un deuxième personnage, lui, qui est nommé, qui s'appelle Fifi, là, il y a une charge émotionnelle aussi très importante, moi, qui m'a fait penser, bien sûr, à Maria Susanna, hein, avec une autre rencontre dans une classe un peu plus école primaire. Là, on
ouais,
est plutôt au lycée,
on a
les blouses avec le prénom brodé sur la blouse,
etc.
Ouais. Et un drame, mais qui te reste, que tu retrouves dans tes cartons, ce que raconte la chanson.
Oui, c'est tout vrai. En fait, des fois, je brode un peu sur ma blouse de chanson, mais généralement, je raconte des choses vraies, des vrais souvenirs, et je les raconte à ma manière. Mais donc ça, c'est effectivement une camarade de classe qui s'est suicidée, donc au moment où j'étais au lycée, et je raconte ça tout simplement. Et oui, le retour du souvenir se fait par une photo que je retrouve.
Et à l'intérieur de cette chanson, encapsulée dans cette chanson, il y a une autre chanson. Alors j'ai été fouillé, j'ai été chercher.
Oh là 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 là, mais tu es redoutable.
Julo Bocarn, Le Petit Royaume, que je ne connaissais pas, je reconnais. Visiblement, c'est un classique. Hein, j'ai vu qu'il était très mis en avant dans sa carrière.
Alors c'est un des tubes des débuts de Julo Bocarn. Oui,
voilà.
Oui, tout à fait. Il se trouve que pour moi... Ça, c'est la force des chansons. Les chansons sont souvent liées à un événement de votre vie, quelque chose. Et je me rappelle que cette camarade de classe, elle avait apporté un 45 tours de Julo Bocarn au lycée, ça, et qu'on écoutait ce petit royaume.
Un pied dans la tombe, la mort fait sa ronde et tu lui souris. Sa faux est à la porte, on sait qu'elle est proche, mais ce qui la séduit, c'est ce petit royaume sans majordome chez lui. Ça, c'est beau. Moi, je connaissais plus la lettre à Kissinger de Julius Bocarn.
Voilà. Il a fait des très belles choses. Enfin, pour moi, c'est un poète plus qu'un chanteur, quelque part, parce qu'il quand même, il swingait comme un manche à balai. Il n'était pas du tout dans les choses du rythme, de la carrure. Il était flottant, un peu comme
D'accord.
garçon. mais quel charme, quand même. il a écrit des choses vraiment magnifiques.
Et une autre chanson qui évoque des rencontres plus anciennes, Ma copine, hein, que tu as repris sur scène avec Véronique Pestel.
Ouais. Tu as des traces de ça, non ?
Ah non, non, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors j'ai contacté Véronique Pestel pour lui demander si elle voulait te faire une petite surprise sous forme d'audio et de questions. Et elle m'a dit je n'ose pas.
Oh.
Ah, c'est dommage. Tu es d'accord ? Hein, on va lui reprocher. On va lui reprocher.
Elle est bête, alors. Voilà. Non.
Mais je lirai un extrait du texte qui est dans le livre. Donc quand vous me rendrez visite, où elle te rend hommage. Enfin, en tout cas, elle rend plutôt hommage à la rencontre qu'elle a eue avec toi, le fait qu'elle t'a croisée. Oui. Et elle t'a, on va dire, elle a donné un titre à une de ses chansons, Mimi de Saint-Julien.
La Mimi de Saint-Julien.
La Mimi de Saint-Julien qui parle de toi.
Et qui parle de moi, enfin qui me cite.
Parmi.
Voilà, j'ai la grâce du titre, puisque ça s'appelle La Mimi de Saint-Julien. Mais justement, elle cite tout un grand nombre de chanteuses qu'elle a pu rencontrer ou entendre. Et relié à des coins de France, en fait, ou du Québec.
Ouais.
Mais voilà, mais c'est une chanson très, très touchante. Ben justement, que c'est Véronique Pestel, c'est quelqu'un qui a une écoute très vaste, en fait, des choses et très sensible.
Aragon en particulier, elle a fait tout un spectacle autour d'Aragon.
Aragon, oui.
Que tu as aussi, très chanté. Beau. Et vous avez chanté sur scène, donc on lui fera le reproche de ne pas avoir osé te poser la question. Elle l'entendra. Allez, on s'approche de la fin. Bon, j'avais mis à côté du côté des bestiaires de Michel Bernard. Bon, il y a dans ce titre, dans cet album, En chant les chèvres, que j'ai rapproché de la vieille chèvre qui était tout au début.
Ah, oui,
voilà. Bon, c'était l'animal qui était commun, parce qu'après l'histoire.
Il y a une histoire urbaine et une histoire de campagne.
Voilà. Alors, moi, j'ai fait aussi un rapprochement en termes de bestiaire avec les 80 beaux chevaux. Hein, donc, on est toujours dans les animaux. Mais surtout, ces deux chansons dans lesquelles tu cries, tu interjectes. Hein, les deux, tu peux les faire, les deux. Dans l'une, c'est taille, taille, taille.
Taille, 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 taille. Oui, comme ça.
Pour
et
les
puis,
chèvres.
Pour les chèvres, oui. C'est le cri de la bergère. Hein. Et puis les chevaux, hey, oh,
oh là.
Ça, c'est plus viril, on va dire. Enfin, on fait ce qu'on peut. Mais... qui étaient les cris et les halètements des hommes qui
allaient sur les canaux.
Qui menaient les chevaux, qui tiraient les bateaux le long des fleuves.
Alors, je vais te faire un reproche. Cette chanson 80 beaux chevaux, tu la chantes avec Frédéric Bobin sur scène. Et je lui ai demandé de multiples fois, il n'y a aucune captation de qualité. Il faut absolument que vous vous enregistriez.
Faut qu'on enregistre, oui.
Ah
oui,
ben oui.
Ah ben, il me l'a dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est... À cause de toi.
C'est possible.
Il m'a dit, oh, ça serait quand même bien que... Parce qu'on n'a pas de disque en commun, puis on n'a pas de projet de disque en commun, mais...
Une captation, enfin,
voilà,
quelque
si
chose...
Voilà, s'il y avait une trace, ça, c'est vrai que ça, ça serait bien. Mmh. Oui.
La vieille ouvrière que vous chantez ensemble, qui est magnifique, tous les deux. Enfin, voilà. Bon, allez écouter les autres émissions que j'ai faites sur Frédéric Bobin. Ouais. Donc, et voilà, je faisais les petites chouettes aussi, qui sont dans cet album,
les quatre petites chouettes,
que tu as trouvées dans ton grenier.
Oui, le regard sur les animaux, c'est vrai que c'est une chose très importante.
Le lézard.
Ouais, il y a plein de bêtes. Hein.
Il y a plein de bêtes, hein, une bestiaire.
Il y a plein de bêtes et c'est... Ouais, et on peut relier ça à Louise Michel quand même, parce que... Et peut-être que... Voilà, le lien, il est peut-être là. C'est qu'elle dit, de manière approchante, du plus loin que je remonte dans le temps, c'est les mauvais traitements dans mon enfance que j'observais vis-à-vis des animaux, qui sont à la base d'ensuite de ma révolte et qui a évolué ensuite vers les mauvais traitements qui étaient faits aux humains, tout ça, mais que au départ, en tant qu'enfant, ça avait été ça la source, quoi.
D'accord.
Et mais... ça c'est une petite chose en commun, ouais.
Tout à fait. Mais je te disais que j'étais au Musée des Confluences voir une exposition temporaire sur l'amour, je t'aime, et il décrypte comment se déclenchent les relations, donc bien sûr les relations amoureuses dans un couple, mais les relations amoureuses quand on aime les animaux, quand on aime la compassion, il décrypte tout ça de façon chimique, etc. etc. Sur plein de registres, notamment qu'est-ce qui déclenche dans l'enfance le fait qu'on va aller vers l'autre, ou moins on va être plus replié sur soi, enfin les mécanismes, c'est particulièrement passionnant. Alors j'avais prévu un long passage, mais je vais le zapper parce qu'il faut qu'on approche quand même de la fin, mais c'est toutes les reprises de poèmes que tu as faites, alors là, c'est magnifique. Alors, je vais passer, ça, je ne sais pas encore lequel, peut-être que tu peux me conseiller, un poème que tu dis, parce que tu as pas mal de choses. Tu chantais, bien sûr, c'est ton registre, tu es une chanteuse.
Oui, j'ai fait des mises en musique, pop, pas mal. Et
mais tu as aussi dit des poèmes, notamment de Sico, c'est ça ?
Sabine Sico.
Sabine Sico, hein, ouais. Un album complet de
textes. Oui, ça, c'est une belle rencontre, Sabine Sico, que je dois à Internet, quand même, il faut que je le dise. Je faisais des recherches sur le thème de l'eau, justement, et je suis tombée sur ce poème de Sabine Sico qui s'appelle « Jour de fièvre ». Je suis tombée dessus sur Internet. J'ai été saisie par l'écriture de cette fille dont j'ai appris tout de suite derrière qu'elle était morte à 14-15 ans.
Ah d'accord.
Donc une très jeune poétesse avec une maturité d'écriture incroyable. Et donc j'ai mis en musique cette chanson Jour de fièvre.
Oui, c'est là,
qui
oui.
Qui est dans un de mes disques. Et puis la chose a plu en fait à un monsieur qui s'appelle Patrick Campistron, qui est un ami qui s'occupait des collections chez du Reader's Digest.
Le Reader's Digest.
Et qui m'avait fait bosser à différents moments. Et lui, il a eu envie de produire un disque de. Des poèmes de Sabine Sico dit par moi. Je lui ai résisté très longtemps parce que je ne suis pas comédienne. Et puis je me suis laissée faire finalement et je ne regrette pas. Aussi parce que j'ai pu. C'était un personnage qui me touchait suffisamment pour que pour que j'y arrive, on va dire.
Et si je devais en choisir un parmi ces poèmes, moi j'ai repéré « Ah, laissez-moi crier » que tu as aussi mis en musique,
oui.
Et chanté avec Jacinta,
oui.
C'est ça. Mais il y a beaucoup de poèmes dits, bon après je peux faire mon choix.
Après, ça s'appelait « Pas de médecin » ou
«
Au médecin ».
Oui, je l'ai vu celui-là, oui, j'ai écouté, oui. Ouais. D'accord. Bon, on écoutera celui-là.
Ou de rien avoir un qui s'appelle « Quand je serai guérie ». Elle n'a pas guéri. Hein.
D'accord. Bon, après, dans ce dernier album, il y a toujours René Guicadou.
Ça, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, René Guicadou, oui, c'est vrai.
Alors, j'avais prévu de parler du livre, on en a beaucoup parlé. Quand vous me rendrez visite, donc une somme avec plein de choses à voir, des paroles, des récits, des témoignages et autres. Bon, la préface d'Anne Sylvestre. Oui. Hein, bien sûr, la rencontre avec Anne Sylvestre, oui. À qui tu as consacré et co-chanté Madame Anne.
Madame Anne, oui, Anne Sylvestre, personnage très important pour moi, à la fois artistiquement et humainement.
Alors, j'ai vu aussi dans cette somme que tu avais chanté avec elle sur scène « Les vieux, les enfants ».
Oui.
Et il faut absolument que tu me trouves une trace de ça. Non, mais je plaisante. Parce que Juliette, que j'ai rencontrée récemment... rend hommage à cette chanson qui pour elle est le summum de la chanson, c'est la chanson définitive,
oui.
De la chanson française.
Je sais pas ce qui lui a... Oui, mais elle se plaît à dire ça, oui. Moi, évidemment que je bois du petit lait, hein, ça ne peut pas dire le contraire. Mais... Oui, c'est marrant que ça la touche particulièrement. Et Anne Sylvestre aussi, puisqu'elle avait... C'était une émission, une soirée qui devait s'appeler Jalousie.
Oui.
Où chaque chanteur devait chanter une chanson qu'il aurait aimé écrire lui-même. Voilà. Et voilà, oui, les vieux, les enfants, mais je regrette pas d'avoir passé 60 ans, enfin, 50 ans de ma vie à faire des chansons, au moins pour avoir fait les vieux, les enfants.
Oui, d'autres quand même, hein, t'es très modeste. On a parlé de Je t'aime, Nomade, la liste serait trop longue. Et on va faire un petit passage pour terminer par Lyon,
oui.
Donc je dédicace cette séquence à des membres de ma famille, Dany et Daniel Debar, qui sont des Lyonnais, et ouais. On est allé visiter Lyon, à qui tu as rendu hommage. Alors pas très souvent, hein, tu n'as pas forcément rendu hommage à la ville en tant que telle, mais tu as eu une commande sur En Pente Douce.
Ah oui, c'est une commande qui m'avait été faite pour fêter les Pente de la Croix-Rousse, donc le quartier, un des quartiers les plus importants de Lyon, une colline, la colline des canuts, des ouvriers.
Des canuts que tu as chanté aussi.
Oui, voilà. Et ben du coup, voilà, je suis partie à écrire ces pentes rousses.
Que tu as arpenté.
C'était de quelque chose à plusieurs voix. Ça devait être chanté par un chœur. Donc voilà, je suis partie de ce qui me... De ce qui m'inspirait sur ces pentes de la Croix-Rousse. Et puis, Je me suis laissée dériver sur des poètes, parce que voilà, c'est ma manière aussi de fonctionner. Donc, y a, dans ces pentes douces, il y a du René Guicadou, il y a du Pablo Neruda.
Pablo Neruda qui complète le titre. Et tu as évoqué, mais je ne sais pas si c'était vraiment une évocation d'une rue, mais c'était un hommage à Jean Pascalet dans Montée des Anges.
À Jean Pascalet, oui. Ouais. Montée des Anges, ça, c'est pas une montée lyonnaise, c'est une montée de Saint-Julien-Molin-Molette.
Ah là là là, donc on revient à Saint-Julien-Molin-Molette.
On revient à Saint-Julien-Molin-Molette. À Saint-Julien, il y a un calvaire, comme en Bretagne, Claude Mur, et qui a beaucoup fonctionné au fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'était un village ouvrier. Et pourquoi je dis ça?
C'est la montée des anges.
Voilà, c'est-à-dire que pour monter à ce calvaire, qui est quand même en haut d'une colline, soit on prend la montée des anges, soit on prend la descente du calvaire. Voilà.
C'est symboliquement, le résumé de la vie le plus court, exactement. Comme disait un autre chanteur, on se retrouve au cimetière.
Voilà.
Ok, donc Saint-Julien-Molin-Molette, on va terminer par ça. C'est aussi une ville qui vient en 2023 de te rendre une forme d'hommage. C'est-à-dire que tu étais jalouse, hein, tu le dis ça dans une interview, du fait que tu avais une rue qui avait été rebaptisée, un chemin qui avait été rebaptisé Anne-Sylvestre, donc un chemin qui ouvre le parcours. Oui. Et ils t'ont proposé...
Oui, de rebaptiser les bâtiments municipaux qui contiennent la salle des fêtes, des salles de réunion et puis une salle de spectacle. Que ce gros bâtiment prenne mon nom. Quand je dis que j'étais jalouse, c'est que je me serais contentée du chemin, plutôt que de ce bâtiment très lourd et très lourd à porter sur ses épaules, quoi. C'est vrai que je le prends comme un honneur. Au départ, je n'étais pas bien emballée par cette idée, parce que c'est trop d'honneur. Trop d'honneur tue l'honneur. Mais
l'idée de la postérité, quand même, quand on écrit. On écrit pour
ça
aussi.
C'est une forme de transmission. Et puis, ce qui m'a touchée, c'est la reconnaissance d'une équipe municipale qui a conscience, qui réalise que la présence d'artistes, il y en a bien d'autres aussi à Saint-Julien, mais...
Des plasticiens, il y a pas mal de plasticiens.
Oui, des plasticiens, et des peintres, il y a eu sérigraphes, sculpteurs.
Et il y a des festivals de chansons aussi.
Oui, de temps en temps. Il y a une belle association qui s'appelle Musique à l'usine, donc un groupe d'amis avec lesquels on organise des stages et des festivals quand on a la pêche. Des festivals de chansons, oui.
Et cette idée de transmission, il est aussi avec ce que tu appelles le petit peuple de la chanson. Ouais. Ces artistes aussi, pas forcément les plus connus, qui reprennent parfois tes chansons ou qui ont leur propre répertoire.
Oui, je parle de ce petit peuple de la chanson parce que je pense aux jeunes chanteurs là, qui se lancent dans l'écriture. Il y en a plein. Et je me dis pour eux, selon comment ils rentrent, par quelle entrée ils prennent ce métier de la chanson, ils vont rester d'éternels méconnus ou ils vont être mis en lumière. Et c'est une machine assez dévoratrice, le monde de la chanson. Et y a, je pense qu'il y a une forme de transmission qui se perd un petit peu en ce moment, une forme de bascule vers d'autres formes musicales, vers d'autres, avec une disparition un peu du texte, du sens. Enfin, encore une fois, c'est tracé à la serpe.
Hein, oui, 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 non, mais c'est juste...
Mais donc je rends hommage à ce petit peuple de la chanson, c'est tous ces chanteurs, jeunes, moins jeunes, l'âge ne compte pas dans ces domaines-là, qui maintiennent le flambeau, c'est-à-dire qui continuent à chanter dans des conditions qui ne sont pas forcément très confortables, mais qui continuent à faire vivre cet art de la chanson, quoi, qui pour moi est vraiment fondamental pour
essentiel, les gens. Essentiel. Et on a perdu ensemble un ami commun récemment, Francis Laporte, qui était en Ariège avec nous, au Relais de Poche, à Verniol, oui. etc., qui t'avait présenté pour ce festival.
Oui, j'avais eu beaucoup de plaisir à le retrouver. En fait, Francis Laporte, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes régions, et Francis Laporte, il y a plein d'années de ça, je ne sais pas trop...
Au Limonaire, peut-être, au Limonaire.
Non, je l'avais entendu à Lyon. dans un petit lieu qui devait être à tout bout de champ. Et il m'avait marqué, en fait, il m'avait vraiment touché par ça. J'avais trouvé puissant, dans une puissance d'évocation et puis un engagement vocal et de présence, quoi, qui m'avait. Voilà. Donc, quand il m'a, peut-être 30 années après,
proposé.
m'a proposé, ça m'a fait très plaisir.
Et il avait repris « Je t'aime ».
Ouais.
Hein, alors, je vais passer une version de « Je t'aime » un peu originale, pour changer un peu, en allemand, ah. Une autre artiste. Yeah. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Barbara Thalheim.
Ouais, bravo.
Bon, j'ai fait un peu d'allemand, j'ai fait 6 ans d'allemand au lycée, au collège.
Alors, Barbara Thalheim, bah, c'est chouette, parce que c'est une femme qui... On a des parcours parallèles, en fait, démarrant fin des années 70... démarrant dans la chanson, et à ce moment-là, elle avait dû sortir, c'est comme ça que je l'ai connue, une chanteuse très, très engagée socialement, politiquement, et elle m'avait écrit à l'époque, donc ça devait être en 78, 80, une lettre pour me dire que son père, qui était très francophile, lui avait fait connaître mon disque, etc. Enfin, bref, on est rentré en relation comme ça, et on est toujours resté en lien. Elle m'a invité à chanter en Allemagne dans ses spectacles. Je l'ai invité avec Jean Pacalet, justement, à Saint-Julien-la-Molette. Et on est resté en amitié. Et puis elle s'est mise, là, depuis quelques années, à reprendre certaines de mes chansons qu'elle a traduites en allemand. Je trouve ça merveilleux.
Ouais.
Je ne lui ai pas rendu la politesse. Et ça, c'est pas...
Il faut que tu essayes.
C'est pas joli.
Ich liebe dich. Ça peut faire ça.
Là, c'est bon. Ja. Alors, c'est plus compliqué pour moi. Voilà.
On va peut-être terminer l'émission par ce titre-là. Moi que tu es, je pose souvent la question aux artistes, dans ce que tu écoutes en ce moment, qui n'est pas forcément dans ton registre personnel, quelqu'un que tu voudrais signaler, que tu voudrais que je fasse écouter aux auditeurs, aux auditrices.
Non, enfin, il n'y a rien qui me vient comme ça.
Voilà, ouais. Mais on peut terminer avec Barbara.
Barbara, c'est bien parce que c'est incongru.
Ok.
C'est chouette.
En te remerciant de ta patience et de la gentillesse de tes réponses. Mmh. À très bientôt.
C'est moi qui te remercie.
Bon, c'est parfait, c'est un peu long. Hein.